Interview réalisée en septembre 2018 dans le cadre de l'action Radio Caravane, en partenariat avec la Grainerie. À l'occasion du festival L'Agito Vert, qui a lieu au début septembre, et au lancement de la saison de la Grainerie, Ondes Courtes et Radio Caravane vous proposent d'écouter François Fener de la compagnie L'Agite. Il revient avec nous sur 20 ans de Grainerie et son engagement dans la compagnie L'Agite. Une interview réalisée par Kevin et Alexandra pour Ondes Courtes et Radio Caravane.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle François Fener. Je suis directeur artistique de la compagnie Agite, qui est installée à la Grainerie et depuis pas mal de temps, puisque même nous étions même à la création de la Grainerie, nous, en 97, c'est ça ?
Et c'est quoi l'Agite ?
Alors l'Agite, c'est une compagnie de théâtre. C'est une compagnie de théâtre qui a été créée donc en 90 et qui, depuis 91, en fait, travaille d'une façon un peu particulière, sous chapiteau. Alors ça, c'était un désir qu'on avait au moment de la création de l'Agite d'avoir une forme de diffusion originale. Donc on a choisi l'outil chapiteau et depuis 91, on a donc un chapiteau. Mais au tout démarrage, c'était un collectif d'artistes et de techniciens indépendants et qui ont décidé de monter une structure de théâtre. Et c'est un petit historique, puisque moi, juste avant, en 90, je travaillais pour le CDN, le Centre Dramatique National du Sorano, donc à l'époque, et que j'ai eu envie, après cette expérience, qui n'était pas particulièrement une excellente expérience au niveau professionnel, surtout, de repartir dans des schémas un peu... du démarrage de mes activités plus collectives, justement, à travailler avec plus de monde et monter une structure moins pyramidale, plus horizontale que ce genre d'institution théâtrale. Voilà.
Mmh. Où intervenez-vous ?
Alors, partout. Partout, il n'y a pas de... On essaye de... Grâce à notre chapiteau, en fait, de se rapprocher de publics qui sont pas obligatoirement des publics traditionnels du théâtre et de gens qui sont assez éloignés de la proposition culturelle, enfin de l'offre culturelle. Et donc, du coup, grâce à notre chapiteau, on a la possibilité de s'installer dans les quartiers, d'aller à la campagne, assez loin éventuellement des dispositifs et des équipements culturels. Mais on s'installe où on veut, là où on nous invite et où on nous propose de travailler. Mais on joue aussi dans les théâtres, on joue en extérieur, on joue dans la rue, dans l'espace public. Voilà.
Alors vous avez choisi le théâtre comme mode d'expression, mais un théâtre vraiment de la notion de populaire, on le voit hein, sur votre site internet, et l'itinérance. Alors vous l'avez abordé là, mais comment est-ce qu'à votre avis le théâtre est un moyen d'expression pour aller vers les autres ?
Bon, le théâtre, a priori, c'est déjà une forme de communication, de relation entre la scène et le public, entre les gens, avec une forme assez particulière, assez codée et presque sacralisée, qu'on pourrait presque rapprocher d'une forme rituelle, et qui permet en fait de se convoquer et de se mettre en relation avec, pour moi, toujours la présence d'un texte, d'un auteur, d'une personne virtuelle, mais qui arrive avec ses mots, avec sa poésie et avec ses propositions poétiques. Voilà. Donc, c'est quelque chose de spécial, en fait. D'assez original et de peu commun dans la communication quotidienne. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans le théâtre, c'est que c'est une matière d'ouverture à l'autre, d'ouverture à la pensée de l'autre, d'ouverture à la forme ou à la poésie de l'autre, et qui permet en effet de relire un peu le monde et la société à travers le prisme d'une proposition différente et qui permet d'explorer en fait toutes nos problématiques, mais autrement.
Justement, en parlant des thématiques différentes, vous abordez des thèmes souvent très politiques ou historiques, et du coup, avec une approche comme un pas de côté, on pourrait dire. Pourquoi ce choix d'aller aborder, moi je pense à Mitterrand Sankara, Moa le Fou, vous abordez du coup soit des choses de l'histoire qui ont été un peu oubliées, soit des conflits actuels. Alors, comment vous y prenez pour aborder ça et que ce ne soit pas trop en frontal comme ça? Enfin, si, c'est en frontal, mais pour que ça passe auprès du plus grand nombre.
Alors, ces choix-là, en fait, ils ont été déterminés à partir de la période où on a commencé à travailler justement dans les quartiers, où on a rencontré des populations qui étaient d'origine culturelle diverse et qui n'avaient pas obligatoirement la même pratique, même recherche au niveau de la découverte justement de ce qu'est la littérature ou la poésie. Et j'ai toujours senti dans le théâtre européen qu'il était particulièrement ethnocentré et qu'il y avait une difficulté peut-être des fois de perception de certaines problématiques totalement étrangères à toute une part de la population, et que cette part de la population d'origine immigrée souvent, hein, mais j'ai fini par me dire le théâtre c'est vraiment pas universel, bien que du coup j'ai commencé à m'intéresser à des problématiques et à des auteurs qui écrivaient en français, mais qui étaient originaires soit d'Afrique, soit du Maghreb, soit des Antilles, les auteurs de la négritude, etc. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être le sujet qui n'intéresse pas certains des publics, c'est peut-être les sujets qui ne les concernent pas, et que si on explore un tout petit peu une autre forme de parole, on va peut-être se retrouver sur des thématiques, ce qui semble être assez vrai finalement, puisque du coup c'est pour ça qu'on a monté Katabiasine, qu'on a parlé de problématiques ayant trait de près ou de loin à la colonisation ou même à l'esclavage, donc des choses qui sont des espèces de verrues dans nos histoires qui nous empêchent en fait d'être clairs les uns vis-à-vis des autres. Et donc je me suis dit que le théâtre pouvait avoir cet intérêt là c'est-à-dire d'être de parler de choses qu'on aborde peu et d'en parler d'une façon simple, puisque par exemple l'écriture de Katabiasine, elle peut être dans sa poésie très complexe, mais dans son théâtre beaucoup plus simple et direct, et très historique aussi, et très bien documenté, alors avec une vision marxiste, hein, très, très évidente, mais ce qui n'empêche qu'au niveau historique, il y a une sorte de lecture assez, assez honnête, je pense, de ce qui a pu se passer, de notre passé commun, voilà. Et que je me dis que tant que ce passé commun ne sera pas mis sur la table d'une façon ou d'une autre, on aura toujours des choses à résoudre entre nous, ou des points obscurs qui nous limiteront dans notre relation, et dans notre possibilité de vivre ensemble, justement, puisqu'on parle souvent de vivre ensemble.
Mais encore faut-il poser les conditions d'un vivre ensemble correct, et ça passe aussi par une acceptation, un retour sur le devoir de mémoire, ou du moins un travail autour d'une mémoire collective. Et on sait qu'en France, des fois, c'est pas gagné sur certaines choses.
C'est
Il y a des zones
gagné.
D'ombre
qui
restent à l'ombre pendant un moment.
Tout à fait.
Pour parler un petit peu du passé, mais là on va revenir sur les débuts de la grainerie. Vous y étiez, c'était comment ?
Alors les tout débuts de la grainerie, en fait, on travaille avec une équipe qui s'appelait Salto Brand, parce qu'elle n'existe plus. On s'était installé plutôt du côté de Purpan, là, à Saint-Martin-du-Touche. On avait loué une friche industrielle, et c'est là qu'on a créé certains de nos gros spectacles, genre le cabaret Tchekhov, etc. Et donc, en fait, c'était déjà une rencontre entre une troupe de théâtre et des circassiens qui étaient issus, qui sortaient du Lido. Et on s'est rencontrés autour de cette création sur Tchekhov. et ça c'était en 95. Et ben, on a eu un problème de locaux à un moment donné où il a fallu qu'on s'en aille, que le local n'était plus alloué. Et donc du coup, on a recherché, c'est plutôt Saltobran qui a recherché et qui a trouvé un site industriel, artisanal de menuiserie donc sur Balma, qui n'est pas là où on est aujourd'hui, et qu'on a décidé de louer et de partager avec d'autres. Mais au démarrage, donc en fait, c'est Saltobran et la Gite qui avons commencé à louer ce lieu. Et ensuite sont arrivés les acolytes, ensuite sont arrivés toutes les troupes aussi qui étaient avec les acolytes. Et puis, je crois que les structures ont commencé à s'intéresser à cet endroit. Et donc, on y est resté un certain nombre d'années. Et là-bas, c'était un lieu intéressant, assez beau, grand, dans lequel on avait des espaces de travail qu'on s'était répartis, et puis dans lequel Saltobran surtout a beaucoup, beaucoup aménagé de salles de travail, de lieux techniques ou de lieux de fabrication de décors. Ensuite, après ça, les choses ont évolué et il y a eu donc cette migration, cette proposition à partir du moment où on a commencé à négocier des choses avec les pouvoirs publics et les collectivités. Cette migration vers ce lieu à Balma, ailleurs, près de Gramont, voilà. Et où on est arrivé progressivement, on a passé pas mal de temps dans les mobile homes. Et puis, nous, on avait toujours notre chapiteau. Donc, en fait, on avait surtout besoin d'un bureau. Et ensuite, après ça, la possibilité d'un espace grand pour pouvoir installer nos chapiteaux, ce qu'on a fait d'ailleurs depuis toujours.
On voit aussi que vous avez ici un poids lourd de garer ici.
Voilà, c'est toujours deux, voilà. Même.
Parce qu'on rappelle
on en a
que
deux en fait.
Deux, oh pardon.
Oui, parce qu'on a deux chapiteaux finalement.
C'est ça, c'est que c'est toujours une grosse infrastructure d'avoir un chapiteau comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous trouvez que ça a évolué les pratiques cirque, théâtre? Est-ce qu'on arrive à trouver facilement, parce que je sais que vous avez la même thématique autour de l'itinérance, est-ce qu'on arrive facilement à s'implanter comme on veut, ou est-ce que c'était plus simple avant? Je ne sais pas, quelque chose autre. Comme ça, de poser un chapiteau.
Bon, finalement, nous maintenant, on est assez repérés donc sur l'agglo, sur la métropole, donc on n'a plus d'extrêmes difficultés à s'installer. Mais bon, c'est parce qu'on fait le travail suffisamment en amont. Hein, et c'est vrai qu'on est obligé de signaler une installation au moins 4 à 6 mois à l'avance. Donc c'est quand même un peu lourd en effet. Après, les installations occasionnelles, spontanées, c'est de moins en moins fréquent et de plus en plus difficile, évidemment. Alors après, il y avait la charte qui avait été signée avec donc les maires de France autour justement de ces installations chapiteaux, qui a été signée il y a une douzaine d'années, je crois, qui a facilité d'une certaine façon la mise à disposition d'espace. Voilà, parce que on sentait que les choses allaient se limiter de plus en plus par rapport à la sécurité, par rapport à des arguments qui n'étaient pas obligatoirement les arguments principaux d'ailleurs pour les principaux intéressés, mais que c'était une forme que certains élus n'avaient absolument pas envie de développer. Donc il y a eu une réaction un petit peu de toutes ces formes nomades. Mais c'est vrai que pendant un temps, le cirque était finalement pas aussi présent qu'on aurait pu le penser, parce que les formes circassiennes ont beaucoup changé et que le nouveau cirque s'est véritablement installé dans les théâtres à ce moment-là. Et c'est vrai que bon, ça a été intéressant du coup pour la grainerie de créer ce lieu de fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Parce que ça reliait et ça ramenait la notion d'itinérance à l'intérieur du cirque, qui était en train de quasi disparaître. C'est-à-dire que, en fait, le cirque prenait ses lettres de noblesse en rentrant dans des espaces totalement sédentaires, en dur, comme on a l'habitude de dire, nous, mais en rentrant dans les murs, quoi. Et c'était pas obligatoirement une très bonne nouvelle, ni pour le cirque, ni pour l'itinérance dans son ensemble. Donc c'est vrai que le mouvement a résisté à sa façon. Nous, au niveau du théâtre itinérant, on a monté une fédération qui s'appelait le Centre International pour le Théâtre Itinérant. Ça s'est fait en 99 sous l'impulsion de la Futsbahn Travelling Théâtre, qui sont des Anglais qui étaient installés dans le centre de la France et qui sont très repérés au niveau justement du théâtre itinérant. Et donc il y a eu autour de ça en fait une forme de renaissance de cette pratique. Après, actuellement, nous, on n'est plus très présents à l'intérieur de cette fédération, mais ça n'empêche que ça a quand même véritablement créé un mouvement. Ensuite, on est finalement assez rare à choisir cette forme-là, parce que c'est véritablement technique et assez lourd. Mais personnellement, nous, on est vraiment très heureux de continuer dans cette voie-là, parce que ça nous donne une liberté inestimable.
Parlons un peu de vous. Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné ?
Ça dépend des fois. Moi, je suis toujours aussi intéressé par ce que je fais, sauf que j'ai des fois envie d'en changer la forme. J'ai commencé à faire du cinéma un petit peu récemment. J'aurais envie de continuer à en faire. J'aime toujours ce que je fais autour de la gîte et autour des chapiteaux, et autour de l'itinérance et autour du théâtre surtout. Mais j'ai changé plusieurs fois dans ma vie d'orientation, soit artistique, soit même professionnelle. Et c'est vrai que j'aime pas trop les choses qui durent. Enfin, je m'ennuie assez vite finalement. Donc j'aime bien relancer des défis nouveaux et peut-être justement ce choix d'un théâtre plus politique, plus engagé est une forme de défi pour moi en fait, de sortir un tout petit peu de préoccupations plus intimes. Mais bon, j'aime tout en fait, hein. Ça dépend, comme je m'ennuie vite en fait, j'ai toujours envie de changer, voilà. Et donc, mais par contre, bon, quand je suis engagé dans un projet, en effet, je pense que je le fais avec une certaine passion. Après, ce qui me passionne moins, c'est la reproduction, c'est de refaire la même chose, de recommencer les mêmes systèmes de gestion avec les mêmes personnes tout le temps. Ça, des fois, ça, j'ai envie de faire autre chose, ou de travailler seul, ou d'écrire, ou de voilà. Enfin, ces derniers temps, ça va, il y a plein de projets, et puis je suis entouré de gens passionnés, de gens plus jeunes, qui ont envie, et donc ça, c'est stimulant. Mais j'essaye de passer la main, en même temps. Surtout du collectif, enfin, pas du collectif, mais justement de la responsabilité un peu personnalisée, mais juste transmettre, en effet. Mais c'est compliqué, parce que les institutions ont besoin de têtes. Elles préfèrent travailler avec une personne qu'avec un collectif. Elles veulent toujours quelqu'un qui représente et quelqu'un qu'elles peuvent suivre au niveau du artistique, au niveau du style, au niveau de la méthode, etc. Et c'est du coup assez difficile de transmettre une histoire ou de s'en écarter personnellement quand on est dans ma position, voilà.
Quelle était la première scène que vous avez faite en théâtre ?
J'essaie de me rappeler. En fait, ça dépend si c'est professionnel, si c'est amateur. Bon. Amateur, j'ai fait des petites choses dans la rue. C'était lamentable d'ailleurs. La première que j'ai faite, c'était terrible. Mais bon, c'est pas grave, c'était un essai. Ensuite, après ça, moi j'ai démarré aussi avec des matchs d'improvisation théâtrale. Et avec justement des amis à la suite d'un cours de théâtre qu'on faisait en commun. Et là, on s'est régalé en fait. C'est là qu'on a commencé à avoir un vrai rapport avec le public. Ensuite, après ça, au niveau professionnel, j'ai monté la première scène en 85. Et ça s'appelait Andrea. C'était une pièce contemporaine qui avait été écrite par un journaliste de radio, justement. Et j'étais à ce moment-là donc une espèce de star de la radio et qui commençait à partir complètement dans les feuilletons, dans la folie en fait. Il se confondait avec son héros principal et il finissait par devenir complètement dingue. Voilà. Et ça se passait dans un studio de radio, puisque c'était de toute façon écrit par un journaliste de RMC à l'époque. voilà, qui est maintenant au Nouvel Obs, qui est connu, qui s'appelle Serge Raffi, en fait.
Quelles sont les rencontres les plus marquantes qui ont influencé votre parcours ?
Alors, moi, j'ai surtout au tout début, en fait, c'est pas obligatoirement des rencontres personnalisées, c'est plus des événements. Entre autres, moi, au début, avant d'être professionnel du théâtre, j'ai assisté au Festival de théâtre de Nancy, qui était un festival de théâtre universitaire d'abord, ensuite qui est devenu un festival mondial du théâtre, et c'était dans les années 70. Et là, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des gens extraordinaires, des compagnies de théâtre, le théâtre Stu de Pologne, c'est là aussi qu'il y avait Tadeusz Kantor, un autre Polonais, la Quadra de Séville, du théâtre brésilien. C'était d'un coup une rencontre internationale où, pour la première fois en France, en fait, beaucoup de troupes internationales venaient jouer. Ça a été un des plus gros événements, en tout cas dans mes choix ensuite pour devenir professionnel et comédien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres des rencontres je suis sûr qu'il y en a eu plein, des gens importants, mais surtout des rencontres amicales aussi. Je crois qu'une des troupes qui m'a le plus touché, en fait, c'est peut-être le Royal de Luxe, il y a longtemps, parce que je les ai rencontrés, en fait, à l'occasion d'un festival que j'organisais dans les années 80, justement sur Toulouse, qui s'appelait Scène de rue. Et donc, j'ai vu le Royal du Luxe, j'ai vu la Fora dels Baus à l'époque. C'est une troupe catalane. Et c'est vrai que leur façon d'appréhender l'espace public, le mélange de poésie, de violence aussi, et d'humour, donc dans leur mise en scène, m'a énormément touché. Voilà. Ensuite, après ça, moi, j'ai adoré voir les spectacles de Ariane Mouchkine, par exemple. Donc, j'en ai pas vu énormément, mais j'en ai vu quelques-uns qui m'ont énormément touché. Entre autres, il y avait le spectacle sur le Sihanouk, sur le Cambodge, qui était l'incroyable histoire du prince Norodom Sihanouk. Ça s'appelait pas comme ça, mais presque. Et ça, c'était un spectacle de 8 heures que j'ai adoré. Voilà, ça, c'était les grandes rencontres de théâtre que j'ai faites, en dehors de toutes mes rencontres personnelles et intimes, dont je ne vous parlerai pas.
Il n'y a pas si longtemps que ça, notre nouveau président français, Macron, elle est en Burkina Faso, et ses habitants ont demandé à notre président, à nous français, d'avoir plus d'informations par rapport à leur héros assassiné, Sankara. Quel est votre point de vue sur le domaine ?
Le point de vue, c'est que ça fait très longtemps, en fait, que les Burkinabés, certains Burkinabés ont demandé d'avoir la transparence sur ce qui s'était passé autour de l'assassinat de Sankara en 87. Et que pour la première fois, en effet, un président français a décidé de déclassifier les informations qui étaient classées secret défense concernant l'assassinat de Thomas Sankara et la participation éventuelle, évidemment, de la France, des États-Unis, d'autres pays africains frontaliers. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans une idée d'une espèce de secret de polichinelle, puisque, en fait, énormément de choses, avec le temps, ont fini par apparaître. Mais c'est clair que, par rapport au peuple burkinabé, ce serait une excellente chose que les choses se fassent vite, dans ce sens-là, pour y voir beaucoup plus clair par rapport à cet assassinat qui était visiblement programmé, qui arrangeait beaucoup les pouvoirs voisins ou internationaux, parce que Sankara était excessivement gênant pour beaucoup, dans la mesure où il proposait l'émancipation, l'autonomie de l'Afrique, l'autodétermination de son peuple et beaucoup de choses qui ne plaisaient pas véritablement, entre autres à la France-Afrique et à tous les anciens pouvoirs coloniaux. Donc c'est une très bonne chose que Macron ait en effet proposé de déclassifier de ces informations. Maintenant, on attend que ça soit fait. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles infos.
On va revenir du coup sur la gîte. Quelles sont vos créations en cours? Alors, on a vu qu'il y a, j'imagine que ce n'est pas que vous, mais qui vous produisez presque une pièce par an, voire tous les deux ans. Ouais. Ce qui est un bon rythme.
Oui, c'est un bon rythme. Des fois, on produit des pièces légères. Bon, là, on va repartir là, sur 2018-2019 sur une nouvelle écriture avec plus de monde. Mais là, on joue une pièce qu'on joue à deux fin mars au Théâtre du Grand Rond, qui s'appelle Trois Ruptures de Rémi Devaux, qui est un auteur qu'on aime bien, qu'on a monté plusieurs fois, et qui a été mise en scène par Marion Bouvarel, que je joue avec Christelle Lehallier. Et c'est drôle. C'est un peu caustique et enfin comme on aime bien ça, des histoires plutôt aigres douces mais qui sont souvent pleines d'humour et qui donnent, enfin moi j'adore, voilà. Et ensuite donc là le futur projet de 2018-2019, c'est à la suite d'une rencontre qu'on a eue avec un auteur contemporain, il s'appelle Catherine Jambon, et qui était comédienne et qui écrit depuis une vingtaine d'années maintenant, autour de, ça s'appelle Nous étions debout et nous ne le savions pas, et c'est autour de c'est des témoignages en fait, c'est une écriture assez composite qui mêle des témoignages individuels, des chœurs, des dialogues autour des lieux et des luttes écologiques, citoyennes, des gens qui se sont insurgés contre un site d'enfouissement nucléaire, contre un projet d'usine de vaches, voilà, et contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, c'est une espèce de melting pot de tous ces lieux, de tous ces combats, mais vus dans l'intimité de certains personnages, c'est-à-dire c'est leur pensée à voix haute, ou la possibilité à un moment donné de prendre la parole en public, c'est des gens qui s'interrogent sur ce que leur engagement a bouleversé dans leur destin, en fait, personnel. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est assez rare d'écrire autour de ça et de mettre en scène ça. Et c'est instructif, et c'est parce que c'est vrai que l'engagement c'est pas toujours facile, que ça peut casser des choses dans un trajet personnel, mais que ça crée aussi des solidarités, des amitiés autres, mais que c'est souvent un bouleversement. Et donc c'est pas uniquement fabriqué par la réaction, par la colère, mais aussi, voilà, ça en fait partie.
On a parlé de la grainerie il y a 20 ans, et puis qu'est-ce que vous pensez que sera la grainerie dans 20 ans et la gîte dans 20 ans?
Ben, la grainerie dans 20 ans, je pense que ça peut bouger dans beaucoup de sens, divers et variés. Ça dépendra un petit peu de l'économie qui l'entoure, de sa relation à l'institution, en fait. Et de la relation qu'elle met en place, de son autonomie aussi, enfin des gens qui y participent et de leurs envies. Donc voilà, je pense que ça peut bouger énormément. Je crois que la grainerie aujourd'hui est très dépendante en fait des pouvoirs politiques. Mais c'est normal, c'est parce que c'est une grosse structure, que ça a coûté beaucoup d'argent et que du coup. coup, voilà, ça a été un choix à un moment donné de l'équipe de direction du CA, etc. C'est bien que ça existe, que ça soit là. Maintenant, je pense qu'il y aura pas mal de choix à faire dans l'histoire. Alors, dans 20 ans. En tout cas, c'est vrai que c'est un bel équipement et que ça profite énormément aux artistes de cirque. Donc voilà, je pense qu'on peut en faire plein de choses différentes. Mais je ne crois pas qu'il y ait un destin dessiné aujourd'hui encore. Mm-hmm. Je crois que plein de choses sont possibles, mais que ça va beaucoup dépendre aussi du contexte politique, puisque de toute façon, on est quand même aussi... dans des questionnements sur le futur. Ce sera quoi la vie dans 20 ans déjà?
Et la culture est là.
Et la culture est là. Ouais. Voilà. Mm. Donc, et la gîte, si bah, dans 20 ans, moi je pense que j'y serai plus par contre. Et donc, si des gens l'ont repris. Mais c'est pas obligé de durer. Moi, je suis pas pour les choses qui durent, en fait. ça me dérange pas quand même un peu que les choses durent trop longtemps. Voilà.
Parce qu'après, on se fige peut-être.
Oui, on se fige, on se stérilise, on s'auto-limite, quoi. Puis les choses, elles changent de personne, donc elles changent de nature, souvent aussi. Enfin, ou l'écran ne fait pas tout. Après, je crois plus à des fonctionnements, mais des fonctionnements qui se renouvellent en permanence, qui sont toujours remis en question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que rien n'est acquis, mais que tout est en mouvement toujours, et que les choses qui sont plus en mouvement meurent.
Le site internet, l'adresse du site internet.
agite-théâtre.org.
Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.